Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Les chroniques estivales de la librairie des étudiants. Rencontre en librairie parisienne. Aujourd'hui, c'est au centre de Paris que nous nous rendons pour une nouvelle rencontre en librairie parisienne. Prenez la ligne 11 du métro et descendez à la station Rambuteau. Prenez la sortie du même nom et engouffrez-vous dans la rue éponyme. Oui, nous sommes à deux pas du musée Georges Pompidou. Remontez cette rue et sur votre droite, osez ouvrir la porte de la librairie Les Cahiers de Colette. C'est une librairie en deux parties que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Nous venons d'entrer dans la première pièce, avec des étagères en bois clair, quelques présentoirs où la littérature des quatre coins du monde est représentée. Dans la seconde pièce, ceinturée de livres, la littérature jeunesse côtoie les sciences sociales, les essais et autres livres sur l'histoire. Le plus marquant dans cette librairie, c'est ce grand espace sur les murs où des photos de personnalités sont épinglées. C'est ici, dans cette librairie, que Nicolas m'a donné rendez-vous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thomas.
Merci de me recevoir ici dans la librairie Cahiers de Colette. Quelle est l'histoire de cette librairie ?
Alors, cette librairie a été créée en 1986.
Oui.
Par la gérante du lieu qui s'appelle Colette. Voilà, du coup, ça s'appelle les Cahiers de Colette, même si on ne vend pas de cahiers.
Est-ce qu'on vend au moins un Colette ?
Et on vend des livres de Colette, évidemment. Mais l'idée du cahier, en fait, ça peut même avoir une petite résonance historique, puisque les livres, quand ils sont imprimés, reliés, etc., alors maintenant, c'est plutôt fait avec de la colle et des choses comme ça. Mais à l'origine, un livre, en fait, c'est composé de plusieurs cahiers qui sont assemblés ensemble pour former un livre.
Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'avais fait un reportage aux éditions La Pléiade, ils appellent ça encore des cahiers, justement.
Exactement.
Au niveau de l'impression.
Exactement. Et pour avoir visité le lieu, effectivement, c'est assez
Babou,
impressionnant.
Ouais. C'est
voilà,
fou, hein.
Chez Babou, exactement, à Lagny-sur-Marne.
Voilà, on pense bien à eux.
C'est très beau, exactement.
Bon, alors, revenons quand même dans cette librairie.
Effectivement.
Elle est en deux parties.
Oui, parce qu'il y a une partie qui est un peu plus consacrée à la littérature et la poésie.
D'accord.
Et une autre qui est principalement consacrée aux sciences humaines.
Oui.
Donc sociologie, histoire, philosophie, politique, des écrits esthétiques avec des beaux livres, notamment des catalogues d'expos, et puis un coin pour les enfants et un coin de BD, de polar. Voilà.
Une librairie très complète finalement.
Assez. Assez. On n'a juste pas d'ouvrages pratiques, cuisine, jardinage, etc. On est une librairie généraliste.
Oui.
Mais comme c'est une taille relativement moyenne, environ une centaine de mètres carrés, et dans un quartier aussi qui a un certain musée.
Bah oui, on est à côté de Beaubourg.
Voilà, des galeries d'art. L'idée de Colette était de faire une librairie indépendante, mais avec un certain niveau d'exigence quand même intellectuelle et artistique autant que possible.
Vous êtes combien à faire tourner cette librairie ?
Alors il y a Colette, bien sûr, la patronne, et donc moi je suis son adjoint.
Oui.
Et puis j'ai quatre collègues, deux à temps plein et deux à temps partiel, et donc on est ouvert tous les jours.
Même le dimanche ?
Bah oui, il y a énormément de monde dans le quartier le dimanche.
Bon, donc ce qui est plutôt pratique pour trouver une librairie.
Complètement.
Ouverte. Comment ça se passe le restant de l'année ? Est-ce que je suppose que vous avez aussi des dédicaces, des rencontres avec des auteurs ?
Tout le temps, toute l'année, sauf pendant l'été bien évidemment.
Ouais.
À ce moment-là,
un
c'est pas nécessaire.
Ouais,
voilà. Évidemment, ça va être principalement autour d'ouvrages de littérature, donc de romans qui sortent à la rentrée d'automne. On croit qu'il n'y a que la rentrée d'automne et la rentrée d'hiver, mais en réalité, il y a des nouveautés, comme pour le cinéma, comme pour la musique, qui arrivent toutes les semaines.
Oui.
Et donc on propose une rencontre avec un auteur, on discute avec lui, on parle de son dernier livre. Si il ou elle est d'accord, évidemment, on fait une petite lecture, dédicace. Et ça peut être aussi consacré à des essais ou de la poésie, mais la plupart du temps, c'est consacré à de la littérature. Oui.
Dans ce métier de libraire, combien de livres lisez-vous par an ? À la louche, à discret.
C'est même à la louche, ça va être compliqué. Sur les moments de rentrée, on va se concentrer un petit peu pour déblayer le terrain, si
bien
je veux dire, puisqu'il y a toujours des centaines. Alors ça tourne autour de 400, 500, 600, 700.
Ouais.
Maintenant, les 700, c'est un peu abandonné, mais c'est grosso modo le volume de nouveautés à chaque grosse période de rentrée. Après, tout au fil de l'année, ça dépend. En fait, moi, je suis un lecteur, un petit peu bizarre, croyais-je au départ, mais en réalité, c'est plus répandu qu'on ne le pense. C'est-à-dire que je lis plusieurs livres à la fois.
Ah, donc on a le droit, la parole de libraire, on a quand même le droit de lire plusieurs livres en même temps.
Heureusement, quand on écoute de la musique, par exemple, vous avez peut-être envie d'écouter du rock'n'roll le matin et de la musique classique le soir. Mm-hmm. On va pour dire très grossièrement, ça va être la même chose. Par moment, je vais avoir envie de lire un essai d'histoire. Par moment, ça sera un essai de philo. Et puis, les romans, ça sera au gré des lectures, au gré des envies, au gré des arrivages, au gré des intérêts aussi qui vont être manifestés par des critiques faites par des journalistes, qu'ils soient radiophoniques ou papier, et bien sûr aussi parfois des sollicitations de clients. On va voir qu'un livre va marcher ou va avoir un certain écho, on va se dire tiens mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Faut garder l'essentiel, en fait c'est surtout de garder un esprit d'ouverture. Ça peut paraître facile à dire comme ça, mais surtout de curiosité. C'est important et même, je pense, indispensable pour faire ce métier, en tout cas, de garder la curiosité pour de la nouveauté, pour des choses qu'on ne connaît pas. C'est le but du jeu, c'est un métier physique, puisque les étagères ne fabriquent pas les livres automatiquement.
Ah oui.
Ça arrive dans des cartons, donc il faut vider les cartons, rentrer en stock, ranger. Donc il y a plein de gens qui s'imaginent qu'on passe nos journées assis à lire. C'est faux.
C'est faux.
On s'occupe des clients.
C'est une gestion,
aussi.
Voilà.
On fait des tables avec des belles piles de livres en nouveauté. Et c'est ça en fait l'intérêt du métier, c'est de mêler quelque chose de manuel, un petit peu physique quand même. Aussi il y a un métier de contact, de relationnel dans les conversations, les échanges qu'on va avoir avec nos clients et clientes, qui même sont pas que des clients, mais sont des gens à qui on va s'intéresser réellement pour leur conseiller au plus près de ce qu'ils recherchent.
On a parlé de la rentrée littéraire. Alors là, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes à la mi-mai.
Mm-hmm.
Je sais que le pari littéraire, surtout chez les maisons d'édition, commence à se réveiller tout doucement parce que la rentrée, c'est déjà pour présent. Est-ce qu'il y a déjà pour vous, sans forcément dévoiler des noms ni même des titres, mais est-ce que c'est déjà pour vous le début des lectures de la rentrée littéraire?
Alors, c'est justement précisément le moment où ça commence à arriver pour nous. Les éditeurs organisent des petites réunions où ils vont nous parler des livres qu'ils vont sortir à l'automne. Donc, par automne, on entend fin août, début septembre.
Bien sûr.
Et donc, nous, on va les avoir là, à partir de la mi-mai jusqu'à peu près la fin juin. Donc, ce qui fait qu'on a après les deux mois d'été pour dépiauter un peu tout ça. Il est évidemment trop tôt pour déjà discerner des tendances, parce qu'on n'a évidemment pas encore tout vu.
Oui.
Néanmoins, on va dire qu'en tête d'affiche, si j'ose dire, on sait qu'il va y avoir un prochain livre d'Emmanuel Carrère.
Mmh.
Voilà, un auteur assez connu et apprécié et attendu.
Oui, l'adversaire, V13.
Voilà.
Entre autres.
Voilà, exactement. Donc je ne sais absolument pas de quoi encore il va s'agir, mais ça promet d'être un des titres phares de la prochaine rentrée.
Alors à ce moment-là, question un peu curieuse, depuis le temps que je rencontre des libraires, souvent ils me disent, oui, mais quand c'est des très très grands noms, en fait on ne le lit plus, on le pose en devanture, et les lecteurs le font le travail tout seul.
Ça marche tout seul, comme on dit. Mais parfois, malheureusement, c'est vrai. Parce qu'on manque de temps, comme tout le monde.
Ah oui, vous ne pouvez pas lire 500 romans.
C'est matériellement impossible. Voilà. Et puis, de toute façon, il n'y a que 365 jours par an.
Voilà.
Et des temps de vie et de lecture réduits au week-end, aux matinées, aux soirées, par moment. Moi, je lis pas mal la nuit, je fais des petites insomnies, donc je lis un peu la nuit. Mais oui, ça arrive. Après, c'est un des aspects aussi du métier. Il y a des choses qui marchent tout seul. C'est comme ça. Hein. Voilà, on n'y peut rien. On ne peut pas avoir d'avis sur tout, avoir tout lu, tout connaître, tout savoir. Il y a des choses pour lesquelles on va peut-être développer, une sorte d'intuition. C'est-à-dire qu'avec l'expérience du temps, des rentrées, on sait à peu près quel auteur va faire quel genre de livre, dans quelle maison, et que ça va peut-être correspondre à, pour dire très grossièrement, de la littérature réaliste, de la littérature autobiographique, documentaire, historique. On arrive à cerner quand même, avec l'expérience, certaines choses. Donc on peut être amené, il y a un livre très célèbre qui s'appelle « Comment parler des livres que l'on n'a pas lu ?»
Bien sûr.
De Pierre Bayard, aux éditions de Minuit. Eh bien, c'est vrai, en partie, parce qu'il y a effectivement tout un ensemble d'informations qui circulent, qui font qu'on peut effectivement arriver à cerner quelques aspects d'un livre en ayant lu à peine une page.
Ah oui, en une page, il faut faire fort quand même. Mais bon.
Les qualités d'analyse textuelle peuvent être requises, quelquefois.
Alors, en parlant des textes et de leur qualité, j'aimerais bien savoir un peu vos coups de cœur, Nicolas.
Très bien.
Est-ce alors, qu'on se déplace alors ?
Voilà, déplaçons-nous dans,
radio, c'est
dans cet espace,
ce
puisque même si cela se fait de manière sonore, bien, cela se fait aussi de manière spatiale.
Mais évidemment.
Les auditeurs eux-mêmes sont peut-être en train de se déplacer d'un endroit à un autre.
Oui, à savoir, on écoute souvent au casque maintenant.
Exactement, ou aux écouteurs, ou à l'autoradio encore.
Ah, peut-être bien, oui.
Ou avec
sur un bon vieux poste à la maison.
Ou les petites enceintes transportables dans les jardins.
Voilà, il y a de quoi faire. Ah, en jardinant, c'est une bonne chose.
Et donc là, parce qu'en plus, là, on donne sur la rue. Eh bien, dans les titres, voilà, il y a pas mal de choses, parce que j'aime bien les avoir physiquement.
C'est mieux.
Voilà, sous le nez. Il y a un très bon roman qui vient d'avoir le prix des libraires qui s'appelle La Petite Bonne, aux éditions Les Avrils, par Bérénice Pichat. C'est extrêmement original dans le style, puisque c'est écrit en partie en vers libre, et qu'il y a surtout, chose peu fréquente chez les auteurs français, les points de vue narratifs de chacun des personnages et surtout des retournements, un gros retournement de situation finale, qui est particulièrement catchy, comme on dit en anglais. Il y a des jeunes auteurs chez la collection Aventure des éditions Gallimard, lancée par Yannick Henel.
Oui, une nouvelle collection, en plus.
Qui
plus
ça mérite toujours un peu d'attention, de savoir que des nouveaux auteurs émergent. Ouais. Julien de Kervillère et Rose Vidal donc, ouvrent le bal de cette collection.
Donc avec
le grand Jean Echenoz pour son Bristol, qui est extrêmement bien écrit et qui est une comédie avec un réalisateur de films de seconde zone. Évidemment, tout va se casser avec la figure dans son aventure, mais voilà, il y a plein de personnages, il se passe plein de choses, c'est très drôle, et c'est surtout magnifiquement écrit. Et puis, le grand aussi, Pierre Michon, qui écrit l'Iliade chez Gallimard, avec des récits autobiographiques, érotiques et mythologiques.
Donc on a quand même une trace de l'Iliade d'Homère dans son texte.
Voilà, et là on est uniquement dans le domaine français, comme on dit. Il y a encore plein de choses chez les étrangers.
Et est-ce que vous avez une pépite à nous conseiller en littérature étrangère ?
Alors, il y en a plein. J'aurais toujours oublié de dire quelque chose.
C'est toujours la frustration à la fin de l'entretien. Tous les libraires me le disent. Ah, mais j'ai oublié de vous parler de celui-là.
Mais c'est normal. Ça revient après, c'est normal. Il y a un super roman sorti un peu plus tôt, à l'automne dernier, Maniaque de Benjamin Labattu, où il est question de physique, de mathématiques, et de génie et de folie mêlées. Il y a l'excellent aussi premier roman de Kaveh Akbar, qui est un Américain d'origine iranienne, qui met en scène un adolescent, enfin un jeune étudiant qui fait une quête autour de la mort et de l'art, et ça va l'emmener bien plus loin qu'il ne le pensait. Et puis un petit livre extrêmement drôle et inventif de deux autrices finnoises.
Quatre mains alors ?
Eh, il fallait bien ça, sans une façon de tuer son mari.
Ah,
un fait divers et non seulement décortiqué, mais surtout réécrit de 101 manières différentes à la manière des exercices de style de Queneau.
Ah oui, donc c'est-à-dire que à chaque nouvelle page, on relit la même histoire, mais
c'est la même histoire, mais racontée différemment.
D'accord. Ah oui, donc un exercice de style très intéressant.
Complètement, et ça fonctionne très bien, c'est hyper drôle.
Et là, on a beaucoup parlé de romans contemporains, on va dire.
Et bien sûr.
Si je vous demande le classique, littérature française.
Alors pour moi,
oui,
c'est La Recherche du Temps Perdu de Marcel Proust.
L'entièreté ?
Bien sûr.
Vous l'avez lu à quel âge, La Recherche ?
Je l'ai lu, j'étais pas encore libraire d'ailleurs, je l'ai lu, j'avais entre 20 et 22 ans.
Vous avez fait des études de libraire ?
Non, ça existe. Oui, en plus, il y a une école qui s'appelle l'école de la librairie, qui permet d'ailleurs d'avoir des apprentis en alternance, notamment, entre autres diplômes, professionnalisants donc, bien sûr. Souvent, il y a des gens qui ont fait des études de lettres, bien évidemment, mais pas que, il y a des gens qui viennent d'horizons très divers, des gens qui se reconvertissent après avoir été prof ou plein d'autres métiers. J'ai rencontré vraiment des libraires assez différents, puisque j'ai travaillé dans une grande enseigne culturelle en quatre lettres. Voilà, j'ai rencontré plein de gens très différents et je trouve qu'on apprend toujours aussi avec les gens avec qui on travaille et ça c'est quand même assez génial.
Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de vous dire un jour je vais être libraire ?
Eh bien le déclic c'est qu'en fait je pensais que je n'en étais pas capable, mais cherchant du travail, un ami m'a dit « Tiens, tu devrais peut-être essayer de faire un remplacement d'été ». Je faisais ça quand j'étais étudiant, donc j'ai contacté la personne, j'ai été reçu parmi d'autres, et on a passé justement pendant cet entretien 20 minutes à parler de La Recherche du Temps Perdu. Ce qui m'a donc amené à œuvrer au rayon sciences humaines, puis au rayon littérature, et puis d'autres.
Alors moi qui n'ai pas encore lu La Recherche, Et peut-être.
C'est pas grave, c'est pas une obligation.
Certainement.
Voilà. Après, faut pas voir les choses comme une obligation et pas dire ah, il faut lire ça, il faut ceci, il faut cela. C'est rien de plus agaçant
que ça. Et ça me rassure que ce soit un libraire qui le dise. Mais si, admettons, demain, j'ai envie de me lancer dans la lecture de la recherche.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut ? Peut-être un état d'esprit précis, parce que Proust, on en parle tellement qu'il peut faire peur aussi.
Et, oui, alors ça peut faire ça. Je pense qu'il faut, en fait, sans blague volontaire, il faut du temps. Parce qu'il faut, comme c'est assez long, il faut passer, je pense, au moins aller entre une demi-heure et une heure à chaque session de lecture, pour avoir le temps de s'habituer au style, de se plonger dans ce foisonnement de personnages. Les phrases, il n'y a pas que des phrases longues. Il y en a plein, bien évidemment, mais c'est surtout arriver à se repérer dans, comment dire, dans les phases de récit. De se dire que ça démarre enfant, puis qu'il y aura d'autres choses qui se passent à l'adolescence, puis à la jeunesse, puis les passages dans des salons, des choses qui partent de la Première Guerre mondiale, des réflexions sur l'art, une quête intime, une quête affective, qui est dédoublée. Il y a plein de modèles et de motifs repris et dédoublés. Voilà. Il faut plutôt essayer de se fixer des petits points de repère que s'attendre à quelque chose d'extrêmement intimidant. Et voilà. Si ça marche dès les premières pages, si on est saisi par quelque chose, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Donc il faut suivre son intuition.
Oui, et puis généralement, dès qu'on est pris, on lâche pas le texte.
Alors, on ne lâche pas, on peut le poser, se dire ça, je le pose pendant un petit moment, voilà. Mais...
minutes.
Voilà, voilà.
On va prendre une grenadine et on revient, quoi.
Voilà, voilà. Ou, tiens, on lit un petit polar, là, on fait une pause entre deux volumes parce que, c'est un peu costaud. Et puis, une fois qu'on a trouvé un rythme, il arrive un moment, un peu comme pendant un film, où on est captivé et où, effectivement, on y retourne, on y retourne, on y retourne, on y retourne, comme on retrouve... un vieil ami, une bonne connaissance, un plaisir toujours renouvelé, et voilà, éternel.
Donc la recherche, on comprend bien que c'est un peu les livres, parce qu'il y en a 7 qui sont à votre panthéon littéraire. Mm-hmm. Moi j'aimerais, si vous me permettez, qu'on fouille un peu dans vos souvenirs, quel a été le premier grand texte qui a été l'éveil pour vous littéraire ?
Alors ça c'est une très très bonne question.
Vous vous êtes dit premier texte que vous avez lu et vous vous êtes dit là ça y est je comprends ce qu'est la littérature.
Ça pourrait être de la poésie.
Ah oui, de la poésie.
Parce que
je lisais,
on nous faisait lire et réciter des poésies à l'école primaire.
Oui.
C'est pas tellement une de celles de l'école primaire que une précise du moins. Qu'une habitude à lire ça. Mmh. Et quand, pendant cette merveilleuse année de première littéraire, on décortique énormément de choses, on rencontre les fleurs du mal
de Baudelaire,
Rimbaud, bien évidemment, et puis en roman, peut-être Le Rouge et le Noir de Stendhal, mais c'est vraiment la poésie de Rimbaud et Baudelaire qui a, on va dire, ferré quelque chose, qui s'est confirmé après par des textes de théâtre, par du Shakespeare, pour du very, very old school, ou pour du Coltès, pour quelque chose de beaucoup plus contemporain.
Quelle pièce de Coltès ?
Le Retour au désert, dans la solitude des champs de coton.
Magnifique.
Voilà, par exemple. Absolument.
Très bien. Merci beaucoup, Nicolas.
Mais de rien, Thomas, avec plaisir.
Merci de m'avoir reçu dans cette librairie. Et on invite chaleureusement tous celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit d'une journée ou plusieurs jours à Paris, de venir vous voir.
Mais oui.
Aux librairies Cahiers de Colette.
Mais voilà, qu'ils viennent. Nous serons là pour les accueillir à bras ouverts, comme on dit.
Merci encore.
De rien.
Amis auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour découvrir une nouvelle librairie parisienne. D'ici là, vous pouvez retrouver la capsule auditive de notre entretien du jour avec Nicolas, ainsi que ses coups de cœur littéraires, en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer un bel été et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.